Zanditanas, c'est à vous, vous avez 2 minutes, un thème que vous connaissez bien. Je rappelle que vous êtes enseignante en lycée professionnel, donc vous allez pouvoir tout nous dire.
Oui, bah justement, on peut, comment dire, les maires, ils peuvent essayer de compenser les manquements de l'éducation nationale, pour les petits en particulier, mais aussi pour les plus grands. Donc c'est effectivement indispensable. Ceci dit, ça reste dérisoire. Là, depuis quelques années, dans les réformes, il y a les classes à 12 élèves, hein, dans les classes, le CP. Mais finalement, tout ça, ça s'est fait à moyen constant, ce qui veut dire qu'on a enlevé des moyens ailleurs. Et donc, on se retrouve notamment au lycée avec des classes qui sont de 30-35 élèves. Au lycée professionnel, c'est la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les ministres parler du succès de ces classes préparatoires à 12 et ne pas être prêts à généraliser ces conditions de travail pour tous. Alors oui, on est dans un monde où il faut savoir écrire, bien s'exprimer, et il est vital du coup que tous les enfants aient le meilleur accès à l'école et à tout ce qui est autour de l'école, le sport, la culture, la musique. Et c'est l'école qui doit s'adapter aux enfants et non l'inverse. Et cela demande non seulement des instituteurs, des ATSEM, etc., mais aussi des psychologues et des orthophonistes. Or, on est dans une région où pour avoir des rendez-vous, c'est extrêmement difficile parce qu'on manque énormément de ces personnels-là. Les enfants handicapés, c'est pareil. Hein, on fait des contrats d'auxiliaires de vie scolaire qui sont très précaire. En fait, ça montre à quel point tout le monde s'en moque. Qu'à la fois on fait ça, mais à la fois on se donne pas les moyens de faire en sorte que les enfants handicapés soient le plus intégrés possible. Alors, finalement, on se retrouve avec
des... Il vous reste 20 secondes.
D'accord. Des centres sociaux, etc., qui essayent de pallier aux difficultés, mais pour qu'on ait vraiment les moyens, il faudrait que la formation de la jeunesse, tout ce qui concerne la formation pour la jeunesse, ça soit vraiment une priorité et qu'on ne serve pas des milliards à une minorité de capitalistes qui, eux, accumulent les profits. Merci. C'est dans toutes ces commissions, parce qu'en réalité, c'est vrai que les réformes, elles se décident ailleurs. Et c'est vrai qu'on est en train de former, là, les dernières réformes du gouvernement, enfin de Blanquer, elles sont en train d'appuyer dans le sens de l'apprentissage, c'est-à-dire de diminuer encore l'enseignement général des lycéens. Et ça les mettra encore plus en difficulté à l'avenir. Or, pourquoi ils font ça? Ben parce qu'en fait, ce qu'on cherche à former, c'est quand même des jeunes qui vont être bons à exploiter. Et ça, pour ce faire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de culture générale. Et ben nous, on s'oppose à ça. D'un côté, on nous chante, il faut être mobile, il faut savoir changer de métier, etc. Et de l'autre côté, on enlève à ces jeunes la possibilité d'avoir un meilleur niveau en français, en maths, etc.
Anne Zanditanas, votre point de vue pour la jeunesse, quelles sont vos propositions pour elle?
Bah effectivement, le chômage, c'est quelque chose qui pèse énormément sur non seulement la jeunesse, mais leurs parents. Et effectivement, c'est extrêmement difficile pour une jeunesse de se projeter dans l'avenir, alors que ce qu'on leur propose, hein, c'est des petits boulots, c'est d'être des intérimaires qu'on jette comme des Kleenex. C'est qu'on leur réponde en permanence mais vous n'avez pas l'expérience, vous avez peut-être le diplôme mais vous n'avez pas l'expérience. Qu'on leur propose des stages, de passer de stage en stage sans savoir si ça peut déboucher sur quelque chose. Et d'autre part, je voudrais dire quand même que la jeunesse, elle peut porter la fraternité, elle peut porter la responsabilité, etc. Mais comment le faire dans une société où tout est fait en fonction des profits? Et ça, la jeunesse, elle le perçoit très tôt, comment fonctionne cette société et l'irresponsabilité de ses grands patrons. Je citerai juste l'usine Lubrizol, dont l'incendie a quand même été marqué jusqu'ici, hein, a eu des conséquences jusqu'ici. Et cette lutte des classes qu'un certain nombre de gens nient, eh ben, elle est révélée en permanence dans la façon de vivre, au niveau de la jeunesse, au niveau des habits, au niveau de la culture, au niveau des sports. Et ça, il faut que nous, on donne à cette jeunesse ouvrière, eh ben oui, d'autres espoirs. L'espoir, mais des espoirs qui seront basés sur leur lutte. Parce qu'en fait, le monde du travail, il a jamais rien eu sans se battre. Et la jeunesse, eh ben, si elle veut se faire respecter, si elle veut apprendre des valeurs, les valeurs propres à sa classe, eh ben oui, elle devra mener des combats. Et c'est au travers de ces combats contre les injustices de cette société qu'elle pourra devenir l'avenir réellement de cette humanité.
Anne-Zandy Tenat, s'il vous plaît.
Je tiens à reprendre
s'il vous plaît. Merci.
Sur le problème du chômage, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Et le chômage, il ne tombe pas du ciel. Hein. Il vient de la fermeture des entreprises. Il vient du choix de la couronne, par exemple, d'avoir fermé. Là, c'est Nestlé qui a annoncé la fermeture de son entreprise, ce qui veut dire au moins 150 personnes qui se retrouvent dehors, plus une centaine d'intérimaires qui travaillaient dans cette entreprise. Et donc, on ne peut pas continuer à laisser cette grande, ces grands groupes financiers et industriels décider du sort de toute la population. Et c'est ça que nous, on tient à contester. Et on pense que la jeunesse, eh ben oui, elle joue un rôle énorme dans cette contestation.
Vous êtes en lycée professionnel. Quel retour avez-vous de cette jeunesse, en tout cas, qui avec vous ?
Quel retour, c'est-à-dire
La jeunesse que vous côtoyez tous les jours. Quel retour avez-vous de cette jeunesse ?
Pour l'instant, la jeunesse ouvrière qu'on a dans nos classes, elle est pour l'instant encore lycéenne et donc elle se projette assez peu dans cet avenir professionnel, sauf au niveau des stages. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de retours après quand ils reviennent de stage, déjà parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont quasiment indispensables dans un certain nombre de secteurs. C'est pas vrai, bien évidemment, de toutes les entreprises, mais dans un certain nombre d'entreprises, ils jouent vraiment le rôle d'employé et c'est pas très étonnant qu'un certain nombre de commerces de Saint-Quentin mettent les stagiaires au moment de Noël, où ça leur permet d'avoir des personnels en plus dans les boutiques sans avoir à les embaucher. Et donc il y a un vrai tournant de ces jeunes au fur et à mesure pendant toute cette période où il y a des besoins spécifiques.
Très bien. Anne Zandy Tenat, pour vous l'offre de santé, quelle est-elle à Saint-Quentin ?
Ce qu'on constate, là encore, c'est que les salariés des EHPAD, des hôpitaux, ont essayé, en tout cas, par leur lutte, de montrer à quel point la situation était préoccupante. Parce qu'ils ont bien du mal à assumer les soins qu'ils doivent donner aux malades. Alors oui, bien sûr, on a un manque de médecins, ça c'est une évidence que tout le monde constate. Et c'est aussi, frappant, c'est qu'en fait, on a une épidémie là qui est en train d'arriver avec un nouveau virus, mais en réalité, l'état des hôpitaux est déjà dégradé. Et ça, ça a quand même été le résultat d'une politique, d'une série de gouvernements qui ont livré les hôpitaux aux banques, qui les ont endettés. Et maintenant que ces hôpitaux sont endettés, il faut rembourser la dette. Et donc, du coup, c'est au personnel de payer, c'est aux patients de payer. Donc ça, c'est effectivement des choses qui dépendent pas du maire, parce qu'en réalité, le maire, il est bien au conseil d'administration des hôpitaux, mais il n'y peut pas grand-chose. Mais n'empêche que c'est une situation qui devient de plus en plus préoccupante et qui est quand même liée aux cadeaux qui sont faits à la grande bourgeoisie, au patronat, pour tout et n'importe quoi. Alors, je me sers de l'exemple de Nestlé parce qu'il est d'actualité, mais Nestlé a eu son terrain gratuitement, a eu des subventions, payait peu de taxes professionnelles et au résultat, ils s'en vont. Et c'est loin d'être le seul exemple. Non seulement ils s'en vont là, mais pendant des années, ils ont aussi licenciés. Ils se sont aussi séparés de personnel. Dès qu'il y a le moindre problème, on met du personnel dehors. Et dans les hôpitaux où c'est service public, finalement, on retrouve tout un tas de gens à qui on impose des temps partiels, à qui on impose des contrats précaires. Donc on voit des jeunes qui ont démarré dans un métier, qui se sont investis, et
merci
puis finalement, ensuite on les remplace.
Merci Anne Zandy Tenat, vous coupez pour respecter l'équilibre du temps de parler.
Anne Zandy Tenat, votre point de vue, s'il vous plaît.
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de voir Madame Macarès et Madame Saillard nous expliquer que effectivement, on profite bien de ces aides, c'est-à-dire le « on », c'est les entreprises, les pharmaciens, les médecins, etc. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on se retrouve avec l'argent public qui est balancé comme ça par les fenêtres, puisque ça ne sert strictement à rien. C'est pas ça qui fait venir les entreprises. C'est pas le médecin, quand il se déplace de quelques centaines de mètres, ça gêne les patients, mais ça ne gêne sûrement pas ses affaires. Donc tout ça, c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe. D'autre part, la santé à deux vitesses, elle est déjà là, parce que un certain nombre de gens dans cette ville, savent que pour avoir un rendez-vous un petit peu plus rapidement avec un spécialiste, parce qu'il y a les temps officiels, et puis après, quand on est capable de rallonger en mettant des sous en plus, là, d'un seul coup, on peut avoir un rendez-vous plus rapidement.
Merci. C'est à vous.
Alors, pour plusieurs candidats, effectivement, c'est la question prioritaire, hein, l'insécurité. Mais justement, tous ces candidats ne considèrent pas que l'insécurité de la vie imposée aux travailleurs est vécue comme un drame quotidien. Et pour nous, la première insécurité, elle est là. Et le gouvernement est en train, en ce moment, là, de prendre des mesures sur les retraites, qui revient quand même à voler nos retraites, pour que les assureurs puissent capter les millions que certains seront prêts à, enfin, les sommes que certains seront prêts à mettre pour avoir une épargne retraite. Alors derrière la question de l'insécurité, eh ben oui, il y a le vol permanent de la grande bourgeoisie et de la délinquance en col blanc. Alors tous les candidats ici, enfin les candidats qui s'occupent d'insécurité, en réalité, ils parlent de la petite délinquance. Et c'est vrai que c'est celle-là qui est vécue dans les quartiers comme extrêmement pénible, difficile. Mais nous, nous pensons que cette question, elle est indissociable de la dégradation des conditions de vie des classes populaires. Parce que la misère matérielle, ben, elle engendre la misère morale, des simples incivilités qui sont parfois difficiles à supporter, aux larcins et aux violences qui pourrissent les quartiers populaires. Mais nous sommes convaincus que pour combattre ces incivilités, que ce soit les nuisances sonores, etc., eh ben, ça nécessite d'en finir avec une société qui est basée sur la course au profit, sur des inégalités qui passent leur temps à se creuser.
25 secondes.
Et la solidarité qui naîtra du combat que mènera la population contre ce système capitaliste, eh ben oui, ça permettra à la population de s'organiser et de répondre à ses actes en imposant des règles de vie qui sont indispensables et nécessaires. Donc, pour ce qui est de là maintenant, en tout cas, nous, il nous semble que même si ce sont des palliatifs, eh ben, il vaudrait mieux des personnels, des médiateurs, etc., auprès des personnes, plutôt que des caméras partout.
Merci beaucoup.
Comment empêcher l'augmentation de la délinquance? Et là, franchement, j'avoue, je suis impressionnée. Chacun, alors soit c'est la vidéo, soit c'est sans la vidéo. Mais de toute façon, on pourra pas mettre un flic derrière chacun. Enfin, il y a un moment où ça devient dingue. Donc, c'est pas une... il faut s'attaquer aux racines du mal. Et la racine du mal, eh ben, c'est quand même les inégalités sociales, c'est quand même le chômage. Je suis désolée, je reviens là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'il faut renouer aussi avec la solidarité dans les quartiers populaires, parce que c'est aussi là qu'un certain nombre de gens subissent ces incivilités, ces attaques qui sont parfois quand même dérisoires, hein, sur des sommes qui sont ridicules, mais... Par contre, ça fait extrêmement, c'est extrêmement douloureux pour les gens. Et ça, ça veut dire renouer avec une solidarité. Et cette solidarité, elle ne peut revenir qu'avec le renouveau du mouvement ouvrier. Parce que c'est là que ça se passe. C'est pas une histoire de flics et de vidéosurveillance. Alors oui, bien sûr, il faut du personnel, il faut un certain nombre de médiateurs, etc. Mais ça ne peut pas suffire. Il n'y a pas de solution à ce problème si on ne s'attaque pas vraiment aux racines de ce mal.
Anne Zanditanas, c'est à vous pour 2 minutes pour la problématique du logement.
Oui, bah pour que chacun ait un logement décent, effectivement, il faudrait s'attaquer à la spéculation immobilière. Effectivement, il y a plus les travailleurs ont des revenus bas, plus ils sont les victimes des marchands de sommeil. Et ils n'ont pas tellement le choix, hein, parce que même s'ils quittent leur appartement, vu le niveau de leurs revenus, seuls des propriétaires qui ne respectent pas vraiment les choses accepteront de leur louer un autre logement. Ceux qui dépendent des logements HLM, ils rencontrent pas mal de difficultés aussi pour obtenir des travaux minimums. Et ça, c'est quand même lié aussi, et ça, enfin plus exactement, ça va s'aggraver parce que l'État vient de décider de faire peser une partie de la baisse des APL sur les sociétés HLM. Donc il y a la baisse que subissent les locataires, mais celle aussi qui est payée par les sociétés d'HLM, et donc forcément elles auront moins de moyens pour assurer ces rénovations. Alors effectivement, le regroupement des sociétés HLM, c'est la réponse, hein, des pouvoirs publics, et cette réponse, elle inquiète aussi bien les locataires que les salariés, à la fois parce que les uns et les autres craignent que y ait moins de personnel, que les bureaux auxquels ils puissent s'adresser soient encore réduits, encore plus moins accessibles ou avec des horaires réduits, et ça, c'est un des soucis aussi. Moi, je crois effectivement qu'il faudrait arrêter complètement les expulsions, parce que ce n'est pas une solution. Virer les gens de leur logement pour qu'ils aillent où soit ils ont la solution familiale, soit c'est effectivement le centre d'hébergement, il n'y a rien d'autre. Et imposer, effectivement, mais je parle bien d'imposer, le blocage complet des loyers. Parce que, mine de rien, on est dans une ville où les revenus ne sont pas suffisants pour que les gens puissent payer les loyers qui augmentent chaque année.
Votre temps est
imparti. Et la solution qui est proposée par les uns et les autres, c'est toujours des cadeaux aux investisseurs.
Merci. 30 secondes, c'est à vous, Anne.
Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la population, elle connaît, en fait, l'état des logements. Elle sait quels sont les propriétaires qui exagèrent ou non. Et ça pourrait être une manière aussi de donner une transparence totale et de permettre à ses locataires de publier les choses et de se défendre. Parce que c'est un petit peu, effectivement, si on en passe par la loi, c'est extrêmement long, ça ne sert pas à grand chose parce qu'au bout du bout, on subit ces conditions, on fait subir à ses enfants des logements avec beaucoup d'humidité, etc. Et il nous faudrait, un service public, en fait, qui assure les moyens de se loger à tous, de façon à ce que ça soit, il y ait un minimum qui soit pour tous. Mais en attendant, de toute façon, on pourrait au moins rendre transparent complètement les conditions de logement. Et ça permettrait de faire une véritable pression sur les propriétaires.
Merci, Alon. Toujours sur cette question d'Arena à Saint-Quentin, Anne-Zanditenas.
Oui, bien évidemment, nous ne sommes pas favorables à ce genre d'investissement. Il y a des manques urgents au service des travailleurs, des familles, des milieux populaires. Et cet argent, oui, il devrait être consacré au logement, à l'éducation, à la jeunesse, aux loisirs, au sport, mais pour le plus grand nombre.
S'il vous plaît.
Et pas pour une toute petite minorité.
Anne-Zanditenas.
Effectivement, et par rapport au chronomètre, vous terminez bien sûr quand vous le souhaitez, mais vous avez la disponibilité d'au moins 3 minutes si vous le souhaitez, mais vous pouvez terminer bien sûr plus brièvement. C'est à vous.
Oui, moi ce que je voudrais rappeler, c'est que le budget des communes, en fait, il a été réduit par l'État. En même temps, il y a eu des transferts de compétences. Et donc, une fois que la ville a financé les écoles, les routes, la gestion des déchets, enfin tout ce qui est indispensable, en fait, il reste une marge de manœuvre qui est assez faible. Et d'ailleurs, c'est quand même apparu dans le débat lui-même. Alors, qu'est-ce qu'un maire peut faire ? Une municipalité, elle pourrait être un point d'appui, en fait, pour toutes les luttes des travailleurs, parce que c'est un problème de rapport de force. On subit la dictature de ces grands groupes financiers. C'est eux qui décident ce qu'on gagne, ce qu'on mange, comment on vit, comment on est transporté, etc. Et ça dépend pas, bien évidemment, ni d'un élu, ni d'un autre. Ça dépend même du président, quelque part, qui se mette au service de ses privilégiés, comme on le voit extrêmement bien avec le gouvernement Macron, mais comme on l'a vu aussi avec tous ceux qui se sont succédés au pouvoir. Ça dépend vraiment de la mobilisation de la population. Et cette mobilisation, elle devra aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire exproprier ces grands groupes financiers, de façon à ce que la population, elle puisse reprendre le contrôle de l'économie, qu'elle puisse décider qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là, qu'est-ce qu'elle fait fonctionner comme entreprise, et que ces entreprises, elles fonctionnent pour les besoins de la population, et qu'elles ne fonctionnent pas pour une toute petite minorité continue à accumuler de l'argent qui ne sert à rien. Là, on est face à un virus, et parce qu'il y a un virus nouveau, avec 3200 morts, je crois, à l'échelle mondiale, on est au bord de la catastrophe économique. Et ce n'est pas moi, bien évidemment, qui affirme cela, c'est tous les commentateurs économiques, tous les responsables de ce système. Alors, ce qui est quand même un monde un peu dingue, qu'il y ait un nouveau virus et qu'à la fin, parce qu'il y a quelques entreprises qui vont être gênées, les spéculateurs peuvent amplifier tous ces mouvements jusqu'à mettre en danger l'ensemble de la société, même si ça ne va pas jusque-là cette fois-ci. Ça a déjà été jusque-là en 2008. Pour nous, ce monde-là, il est à renverser. C'est les gens qui dirigent cette société n'ont aucune légitimité pour le faire. Ceux qui font fonctionner cette société, ce sont les salariés. Ce sont les salariés de tous les services. Ce sont les précaires, ce sont les privés d'emploi, bien évidemment.
15 secondes encore, Anne-Zanditenas.